Évangile et liberté.
L'émission mensuelle du protestantisme libéral. Bonjour et bienvenue dans l'émission Évangile et Liberté pour vous accompagner aujourd'hui, Agnès Adeline Scheffer. En 2017, il y a eu un petit livre que vous pouvez trouver aux éditions Van Dieren, qui s'intitule « Des mots qu'on n'aime pas ». Alors vous allez me dire « Oh, mais nous avons déjà entendu parler de ce petit livre, mais est-ce que vous l'avez lu jusqu'au bout ?» Eh bien, ce n'est pas sûr. Alors, c'est pour ça que je choisis aujourd'hui de reprendre des extraits de ce petit livre et de vous présenter ces mots qu'on n'aime pas. Pourquoi n'aime-t-on pas certains mots ? Le plus souvent parce que l'emploi qui en est fait les use, les abîme, les défigure. Certains sont irrécupérables. La plupart des mots, cependant et heureusement, peuvent être soignés, nettoyés, recyclés et devenir ou redevenir inspirants et dynamiques. Ce n'est pas parce que l'usage a perverti une notion qu'on doit l'abandonner. Quand il s'agit de religion, de foi, de croyance, cette méfiance des mots se fait naturellement d'autant plus aiguë. Alors, dans ce petit livre intitulé « Des mots qu'on n'aime pas », il y a 125 mots revisités ici par 43 auteurs proches du protestantisme libéral. Et ces mots ont paru originalement entre 2004 et 2017 dans le mensuel Évangile et Liberté, donc mensuel protestant francophone des théologies libérales. Le premier mot que j'aimerais partager avec vous, c'est le mot de rédemption. Il a été écrit par Gilles Castelnau en décembre 2008. Nous sommes légitimement heureux de notre rédemption, de cette nouvelle manière que nous donne le christianisme de considérer la vie, le monde, notre existence. Nous sommes sensibles à la libération qu'apporte l'évangile de Jésus-Christ. Nous prenons conscience de la pesanteur des égoïsmes, des moralismes infantilisants, des arrogances aliénantes, des passivités découragées. Nous faisons l'expérience du dynamisme créateur que l'Esprit divin fait monter en nous, courage d'affronter la vie, apaisement souriant, sentiment de compassion universelle. Cette rédemption, ce nouveau style de vie et de pensée que Jésus-Christ nous a révélé à la suite des prophètes d'Israël, et qui a été poursuivi depuis par ses apôtres et tous ses disciples, nous nous y ouvrons par la foi et nous y progressons dans l'espérance et dans l'amour. Mais nous ne croyons pas que notre rédemption ait été un acte que Jésus-Christ aurait accompli tout seul et de lui-même en versant une rançon à un prince de ce monde, en nous rachetant à une puissance quelconque qui aurait eu des droits sur nous, ou en versant son sang sur la croix pour apaiser la colère d'un Tout-Puissant focalisé sur les péchés du monde. Nous ne croyons pas que notre salut soit un drame céleste qui s'est joué en dehors de nous et qu'il nous ouvre l'accès à un paradis éternel, réservé par un Dieu sourcilleux à ceux qui en connaissent les mots-clés et les doctrines secrètes. Nous aimons le Dieu vivant, dont le souffle créateur anime tous les vivants, que tout ce qui respire loue donc l'Éternel. Voilà, c'était un extrait donc de ce petit livre que vous pouvez trouver aux éditions Van Dieren, qui s'intitule « Ces mots qu'on n'aime pas ». Et ce que je vous ai transmis à l'instant était une réflexion écrite par Gilles Castelnau sur le mot « rédemption ». Alors, je voudrais remonter un petit peu dans le temps et remonter juste au mois de novembre 2008. Où là, c'est encore Gilles Castelnau qui dit ceci. Au début de nos cultes, je suis agacée par la confession des péchés. Certes, je trouve très bien que l'on nous fasse incliner la tête. Tous, jeunes et vieux, riches et pauvres, nous nous présentons comme de simples hommes qui ne se permettent pas de plastronner de manière prétentieuse en présence de Dieu, au plus profond de nous-mêmes. Mais souvent, le pasteur exagère. Alors que j'arrive tout content de ce moment de paix avec Dieu, il me cueille à froid. Seigneur, ta joie éclate dans la création et nous ne la voyons pas. Tu nous aimes et nous ne voulons pas le savoir. Alors que si je suis venue, c'est justement à cause de cet amour qui fait ma vie. Pourquoi cherche-t-il à nous enfoncer ? Un catéchumène disait « Il est complètement névrosé ». Il est vrai en tout cas qu'il a l'air de penser qu'on est resté au point zéro, depuis si longtemps qu'on vient au culte. Nous avons oublié notre dépendance de ta bonté. Nous avons oublié de partager. Bigre, pourquoi dit-il cela ? Le catéchumène disait « C'est même pas vrai ». Et quelle idée il donne de Dieu ! Un Dieu mécontent de tout, toujours fâché. Un Dieu qui passe son temps à regarder ce qui ne va pas, alors que nous savons bien qu'il vaut mieux voir ce qui va bien. Jésus n'était pas ainsi. On devait au contraire se sentir heureux avec lui dans la joie de la création d'un monde meilleur et fraternel, pas accusateur comme celui des pharisiens qui surveillaient tous les défauts. Et je me dis que, pendant le repas de joie, si l'enfant prodigue avait encore répété à son père « J'ai péché contre le ciel et contre toi », le père lui aurait répondu « Arrête et mange ton veau, n'est-il pas bon ?» Je vous présente actuellement un extrait de ce petit livre qui s'intitule « Ces mots qu'on n'aime pas ». 125 mots mal aimés et revisités. Et je voudrais en partager un troisième, qui est aussi une revendication de quelque chose qui m'est mal à l'aise pendant le culte. Alors, c'est James Woody qui a écrit ce petit mot, revisité, la prière d'intercession. Il l'a écrit en novembre 2006. S'il est une partie du culte qui me met mal à l'aise, c'est bien la prière d'intercession. Si souvent catalogue de tous les malheurs du monde, de tout ce qui ne nous plaît pas, de tout ce qui nous agace, nous révolte, nous attriste, cette prière me donne le sentiment qu'elle est une sorte de sac dans lequel nous mettons le linge sale humain pour que Dieu en fasse le nettoyage. Dans ce cas, ce n'est pas autre chose que se laver les mains en ayant bonne conscience d'avoir une pensée pour ceux qui sont dans le besoin. Et puis, que signifie le fait de prier Dieu d'intervenir dans telle situation en Tchétchénie ou pour telle personne en Sierra Leone? Qu'il ne saurait pas ce qu'il a à faire en faveur de sa création? Ou pire, qu'il attendrait que je lui donne le feu vert pour intervenir? Dans ce cas, est-ce encore au Dieu de Jésus-Christ que l'on s'adresse? J'en viens aussi à me demander si la prière d'intercession n'est pas conçue comme le temps où l'on organise l'emploi du temps de Dieu en dressant ses priorités pour la semaine à venir. Il me semble que ce n'est pas tant Dieu que l'homme qui a besoin d'être alerté sur les situations pour lesquelles il faut intervenir. Et s'il nous apparaît important de porter une personne, une situation devant Dieu, c'est pour l'entendre nous dire comment nous pouvons nous-mêmes agir, réagir, pour que ce soit bien sa volonté qui se manifeste et non la nôtre. Le silence et l'écoute d'une parole autre que la nôtre ont dès lors toute leur importance. Plus que la prière que l'homme adresse à Dieu, l'intercession devrait être comprise comme la prière que Dieu nous adresse. Dans l'émission Évangile et Liberté, j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter un petit livre qui s'intitule « Des mots qu'on n'aime pas », qui a été réalisé avec le mensuel Évangile et Liberté. Et ce petit livre, vous pouvez le trouver aux éditions Van Dieren. Il est paru en 2017. Alors, je continue cette lecture avec un mot qu'on n'aime pas beaucoup, c'est le mot « humilité ». Alors, je voudrais vous transmettre ce que Laurent Gagnebin écrit en avril 2014. L'humilité est une vertu généreuse par son refus des mérites, des vaines prétentions, de l'orgueil déplacé, par un sens de l'abnégation, par le refus de parader. Marie dit de Dieu qu'il a élevé les humbles et les a ainsi placés au premier rang. Avec Jésus, les petits, les victimes de l'injustice et des regards méprisants, les modestes sont redressés et mis à leur juste place. L'humilité, c'est aussi savoir admirer, non pas uniquement des génies, mais des personnes proches de nous. Il y a tant de gens dignes d'admiration et parfaitement inconnus. C'est si heureux et exaltant de pouvoir les admirer simplement. Si nous connaissons la fausse humilité des Tartuffes et des hypocrites, il y a une fausse humilité moins évidente. Je pense à certaines formes d'obéissance religieuse, de soumission au supérieur. La conception servile de l'humilité est une déformation du christianisme et de la voie spirituelle, écrit Nicolas Berdiaeff. La révolte nous arrache aux prétendues humilités. Elle peut être salutaire, évangélique. Mais la pire humilité est peut-être celle du dénigrement de soi, où se cache beaucoup d'égocentrisme et d'orgueil. Égocentrisme parce que le sentiment perpétuel de nos péchés est une attitude nombriliste. Orgueil par un désir démesuré de perfection. Il peut y avoir aussi, et secrètement, une autosatisfaction malsaine et morbide dans l'abaissement et l'ascèse, comme si Dieu exigeait avant tout de nous souffrance et sacrifice. Enfin, dire à Dieu seule la gloire peut correspondre à une passivité stérile et signifier une négation de l'être humain dans sa dignité, le rejet d'une vie et d'une liberté créatrice, des audaces inventives et transfiguratrices que Dieu attend de nous. Alors je continue cette lecture un petit peu en diagonale de ce livre qui s'intitule « Ces mots qu'on n'aime pas ». Et le mot que j'aimerais partager avec vous maintenant, c'est le mot « signe de croix ». Le contenu de ce petit article a été écrit également par Laurent Gagnebin, mais cette fois-ci en juin et juillet 2008. Mettre une croix dans les temples ne date, à quelques exceptions près, que du XIXe siècle. L'esprit protestant répugne à une telle pratique. Les pièges de l'image et d'un fixisme matérialiste peuvent s'y rencontrer. Mais la croix se veut être le symbole universel du christianisme. La croix nue dit un dépassement de la crucifixion, que le crucifix, lui, ne fait pas, vers un Christ vivant et spirituellement présent. Le dynamisme créateur de Dieu nous empêche d'arrêter et d'emprisonner Jésus sur la croix, dans la mort et nos tombes. Il n'est pas ou il n'est plus là. Il est dans notre cœur, dans nos vies et avec les victimes de l'injustice. Le signe de croix a l'immense avantage par rapport à la croix de n'être qu'un geste. Il passe. La croix demeure. Nous savons bien la part d'automatisme irréfléchi et de formalisme répétitif, de manipulation de Dieu et du sacré, de superstition que peut receler un rite. Mais la force d'un geste est bel et bien d'être un signe éphémère. Il signifie et il disparaît. Signe transitoire. N'est-il pas préférable à l'image fixe du crucifix et même de la croix? Des luthériens le pratiquent. Oh, mais ça fait catholique, diront certains. Il n'en reste pas moins vrai que ce geste, quoique marqué par le magisme que l'on sait, peut être interpellant. Le sportif, qui, avant telle ou telle compétition, fait, sans ostentation, un signe de croix, figure publiquement, presque malgré lui, une vérité évangélique centrale. Pour ma part, cela m'émeut et ne me choque pas nécessairement. Une condamnation de la religion dite populaire a facilement quelque chose de supérieur, méprisant, élitiste et puriste. Et je veux voir dans ce signe de croix une sorte de témoignage public. Le religieux ne saurait être entièrement privatisé. Et enfin, je voudrais encore partager avec vous un autre mot de ce petit livre, ces mots qu'on n'aime pas, 125 mots mal aimés et revisités, que vous pouvez trouver donc aux éditions Van Dieren. Et le mot que je voudrais partager avec vous maintenant, c'est le mot de « aumônerie ». Il a été écrit par Louis Pernaud en mai 2012. « Aumônerie ». Le mot n'est pas beau. Il fait penser à « aumône ». Et dans notre langage courant, l'aumône a vite fait d'évoquer le geste méprisant d'une somme insignifiante qu'on donne par condescendance à un pauvre mendiant, avec en passant une manière pas trop onéreuse de se donner bonne conscience. Mais il est vrai que le mot « aumônerie » vient bien de là. C'était à l'origine le lieu où l'on dispensait les aumônes dans les abbayes. On y distribuait des vivres et aussi de l'argent. Et par extension, c'est devenu le service de don de ces aumônes aux plus pauvres. Aujourd'hui, que distribue-t-on dans les aumôneries? Pas grand-chose de matériel, mais une attention, une présence, une parole d'espérance, une bonne nouvelle évangélique, que ce soit pour les soldats risquant leur vie, les malades ou les voyageurs. Aujourd'hui, les bénéficiaires des aumôneries ne sont pas forcément des pauvres au sens matériel, mais souvent des personnes en situation de faiblesse qui ont besoin d'un frère ou d'une sœur leur apportant de l'espérance. Certes, le pain est indispensable pour vivre, mais nous savons aussi que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il paraît que le mot « aumône » vient du grec « eleemosune » qui signifie « compassion »,« pitié ». Il s'agit donc bien plus qu'une petite pièce que l'on jette. Il s'agit d'un geste venant d'un sentiment fort d'amour. Et l'aumônerie, c'est plus qu'une administration hiérarchisée. C'est toute une démarche visant à aller vers les plus démunis humainement et spirituellement et qui ne pourraient souvent trouver par eux-mêmes le pain céleste dont ils ont besoin. Voilà, c'est donc un extrait de ce petit livre qui s'intitule « Des mots qu'on n'aime pas ». Et avant de continuer sur un dernier mot, je vous invite encore à faire une petite pause musicale.
Thank you.
Chers amis, le dernier mot que j'aimerais partager avec vous s'intitule « Miséricorde ». Il a été écrit par James Woody en avril 2016. J'ai longtemps pensé que miséricorde n'était qu'un juron. Lancé au ciel sur le ton de l'ironie pour clamer sa colère, il me semblait approprié pour hurler le sentiment d'injustice dans le cas d'une situation particulièrement tragique. Par la suite, ce mot m'est devenu insupportable, car chargé de condescendance. Les uns faisaient preuve de miséricorde pour mettre en évidence leur bonne âme, d'autres étaient miséricordieux pour prendre le pouvoir sur celui qui obtenait miséricorde. Au même titre que la charité qu'on balançait à la figure du pauvre, du malheureux, de celui qui manquait de tout et d'abord de reconnaissance et d'affection, la miséricorde avait ce mauvais goût de l'orgueil. Ce n'est pas l'affichage massif du mot sur les églises catholiques et dans les vitrines religieuses en cette année dite de la miséricorde qui me l'aura rendu plus sympathique. En revanche, bien des situations, bien des personnes dont je croise la route ou le regard ont sur moi un effet que je ne saurais exprimer si je n'avais ce mot à ma disposition. Pour ne pas me laisser submerger par l'émotion, mais pour l'orienter vers l'amour inconditionnel envers mon prochain, ce mot miséricorde est ce dont j'ai besoin. Il identifie la misère. Il repère l'activité de mon cœur et me permet de penser les deux ensemble. Je peux alors mettre de côté tout sentiment de culpabilité ou de colère et agir par grâce seule. Alors que je ne pourrais ne faire face au malheur, voire que je ne pourrais punir telle erreur ou telle faute, ce terme me rappelle qu'il y a par-delà mon désir un impératif évangélique qui est de sauver ce qui semble perdu, de mettre chacun au bénéfice de la miséricorde, l'autre nom de la bienveillance de l'Éternel. Chers amis, c'est ainsi que prend fin cette émission Évangile et Liberté, consacrée au livre « Des mots qu'on n'aime pas » paru en 2017 aux éditions Van Dieren. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le site internet www.evangile-et-liberté.net ou encore écrire à Évangile et Liberté, secrétariat de la rédaction, 14 rue de Trévise, 75 009, Paris. Au revoir, à bientôt.